Rennes à sec pour les refus de la nature, société extrême climatique, et épouse délibérément la vision historique comprise grosso modo entre 1500 et 1900-1950. Hein, on se réserve la possibilité parfois de faire des reconstructions jusqu'à aujourd'hui afin de pouvoir comparer à peu près correctement les choses. À titre indicatif, le projet Rennes-Assec, qui à l'origine était financé par le GIS, a été refinancé l'an dernier par l'ADEME. Je crois que c'est important.
Mais dans le cadre du GIS. Hein.
Dans le cadre du GIS, bien sûr, oui. Dans le cadre du GIS. Il n'y a que pas. Donc pour l'année 2010 jusqu'en janvier 2012. Voilà. Alors, quelles sont les forces en présence au sein de ce groupe Rennes-Assec ? Donc, c'est assez original puisque le GIS a accepté de confier la responsabilité en tant que coordinateur d'un projet de recherche à quelqu'un issu des sciences humaines, votre serviteur, puisque je suis historien de formation. Mais notre équipe implique bien plusieurs disciplines, en particulier donc la phénologie avec Nicolas Vieuville, la paléoclimatologie. Enfin, je vous laisse le soin de parcourir. Pour les historiens, les représentants donc, principaux sont Jérémy de Sartre, qui est présent dans l'amphithéâtre, et moi-même. Et nous tentons, donc tant bien que mal, depuis 2008, de coexister, d'échanger et de construire des choses sur ces fameux événements extrêmes. Rennes-Assec, si c'est important également, s'inscrit dans un contexte scientifique un petit peu plus général, prioritairement un programme SHS du CNRS, le programme PIC du PIRV, programme interdisciplinaire de recherche sur les villes et leur environnement, me semble-t-il. Donc là, qui inclut essentiellement des gens issus des sciences humaines. Ensuite, la NR CHEDAR, qui traite des impacts sanitaires des fluctuations climatiques au cours des deux derniers siècles. Le programme européen Millennium, etc. Voilà pour les trois principaux, et les autres sont nettement plus secondaires. Alors, quels sont les enjeux liés à cette recherche en matière d'événements extrêmes ? Eh bien, en premier lieu, on a un enjeu disciplinaire qui concerne directement l'histoire, à savoir que chez nous, la recherche en matière d'histoire du climat est un chantier inachevé. Après les travaux pionniers, je parlerai du front pionnier, ouvert par Emmanuel Leroy-Ladurie, eh bien, force est de constater aujourd'hui que ce terrain ressemble aujourd'hui à un terrain en jachère. On n'a pas, après Emmanuel Leroy-Ladurie, relancé des cols historiques climatiques au sens strict du terme, à la différence de nos voisins européens qui, eux, ont repris le flambeau. Ils se sont inspirés des travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie dans les années 70-1980 et ont constitué véritablement des écoles en lien, enfin, des écoles historiques, c'est vrai, mais délibérément ouvertes sur les autres disciplines. Ce sont vraiment des pôles d'interdisciplinarité incontestablement. Pourtant, et là je recentre un petit peu sur les événements extrêmes, il faut bien reconnaître que travailler sur ces événements extrêmes dans une perspective historique relève d'une très très grande pertinence, tout simplement parce que nous disposons d'une documentation extrêmement riche, et là je crois que c'est une particularité française, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans le cadre du jeu des questions-réponses. On a énormément de documentation, les gens sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelle à l'époque les dérangements du temps, les monstruosités du temps, les anormalités du temps, enfin bref, ça émaille la totalité du corpus documentaire que nous utilisons. Par corpus, je désigne les sources textuelles et les sources instrumentales. C'est aussi pour l'histoire l'occasion, on est toujours donc dans la perspective purement disciplinaire, l'occasion d'entreprendre une forme de médiation. Médiation en direction des autres sciences, et vous l'aurez compris, en direction plus particulièrement des sciences exactes. Enfin, c'est un projet, à mon sens, particulièrement opportuniste. On l'assume au sein de l'équipe Rennes-Assec, dans la mesure où les extrêmes climatiques focalisent vraiment l'attention et de nos décideurs et de l'opinion publique, et dans une large mesure aussi des médias. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, si la vague de froid dure, on peut être sûr que dans les 48 heures ou dans le courant de la semaine, on va être contacté pour essayer de parler de l'épaisseur un petit peu historique pour relativiser le phénomène actuel. Donc voilà pour l'enjeu historique. Autre enjeu, eh bien c'est en direction de la paléoclimatologie, qui elle utilise prioritairement, comme vous le savez, des archives naturelles, des archives matérielles dans une moindre mesure, notamment dans le cadre de recherches archéologiques, et qui vise à étudier les grands changements climatiques. Que leur apporte-t-on, nous ? On leur apporte une résolution chronologique beaucoup, beaucoup plus fine. Quand je dis beaucoup, beaucoup plus fine, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus fin. En clair, on arrive pour certains événements extrêmes à une résolution de l'ordre du quotidien ou du mois. Et cela des années 1500-1520 approximativement. Enfin, pour les objectifs principaux, bien évidemment, il y a les reconstructions attendues par nos collègues des sciences exactes, en affinant la chronologie, on l'a vu, mais aussi en leur permettant un meilleur calibrage de leurs données naturelles, et enfin, une question quasi métaphysique, en tout cas dans l'esprit des journalistes et des décideurs politiques, et c'est bien sûr la notion de fréquence et de sévérité de ces événements extrêmes. Pour nous, gens des sciences humaines, d'autres enjeux, d'autres objectifs se dessinent également, sont les réactions des sociétés. Et le GIST est, me semble-t-il, partie prenante, dans la mesure où on pourra évaluer ce que j'appelle le taux de perte, la signature démographique de tel ou tel type d'événement extrême, les impacts économiques, on a pléthore de documents qui décrivent les dégâts, le coût, etc. Les formes de gouvernance, comment les États, comment les autorités locales ont fait face, ont-elles su faire face, et si elles ont su faire face, selon quelles modalités. Les cultures, alors il y a les cultures au sens culturel du terme, et il y a les cultures aussi au sens agraire. On étudie parfois à très très grande échelle certains systèmes, agrosystèmes pastoraux ou agrosilvosystèmes, afin de voir, par exemple, si tel type de peuplement forestier résiste mieux ou non aux extrêmes de type tempête. Enfin, les formes d'adaptation, pourquoi pas, c'est vraiment l'ultime objectif qui reste à atteindre dans le cadre de ce programme RENASEC. Quels sont nos territoires de chasse, en quelque sorte? Eh bien, on a souhaité, dès l'origine, avoir une entrée régionale et non pas nationale, tout simplement parce que nous, historiens, rien, savions que le corpus documentaire était très important et qu'il était totalement inconscient de se lancer dans une étude d'ampleur nationale. On a donc fait le choix de sondages géographiques à partir de 4 ou 5 régions, principalement le Nord, le Grand Est, Grand Ouest, Centre-Ouest, et pour la partie méridionale, Rhône-Alpes également, et pour la partie méridionale, essentiellement Languedoc-Roussillon, avec aussi une préoccupation permanente, à savoir établir des liens, des comparaisons avec ce qui s'est fait, ce qui a été étudié à l'étranger. On a donc des liens, en hiérarchisant un petit peu, particulièrement forts avec l'Espagne, la République tchèque, il s'agit d'un historien du climat, Rudolf Brasdil, l'Allemagne, dans le cadre d'une ANR qui a été citée précédemment, ce transrisque franco-allemande, et puis Canada, mais cette fois-ci pour sa dimension plutôt sociologique. Les moyens, cette fois-ci, alors les moyens de la recherche, vous les connaissez, les matériaux, tout d'abord le choix de territoires régionaux, pour obtenir une plus grande homogénéité dans les résultats. Enfin, la matière première de l'historien sont des archives, vraiment des archives. Vous aurez quelques extraits au fil de l'exposé. Et on atteint là la première éventuelle ou potentielle rupture dans le dialogue entre les disciplines, les pas de temps des uns et des autres. L'historien va donc se retrouver face à un front de taille qui est celui des archives. Ces dépouillements sont très très longs. Et il faut bien reconnaître, mais on avait eu l'occasion déjà de se confronter dans le cadre d'une ANR en phénologie, l'ANR Ophélie, avec l'équipe de RENASEC, il faut savoir que nos temps de dépouillement sont très très longs. On ne peut pas proposer aux gens des sciences exactes de premiers résultats avant, au bas mot, 6 mois, voire 1 an. Donc c'est un pas de temps à négocier dès le début du projet. Aujourd'hui, au sein du LSCE, ce sont des mœurs propres aux historiens qui ont été parfaitement assimilées. Mais c'est vrai qu'à l'origine, ça pouvait être, alors peut-être pas une condition de rupture, mais une zone d'aspérité. Eux attendaient des résultats très rapidement et nous ne pouvions pas les fournir avant, je vous dis, 6 mois, mais plutôt une année. Enfin, ces dépouillements font l'objet d'une collecte et d'une organisation au sein de bases de données. Alors ces bases de données, en fait, sont toutes simples, c'est plutôt des bases de données de gens de sciences humaines, avec à gauche une première colonne sur l'événement lui-même, tempête, inondation, etc. Ensuite, la référence exacte de la source, ça c'est fondamental, on peut à tout moment faire une interprétation erronée, il faut donc que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, cette base de données est toujours accessible, ce qui pose le problème des supports aussi, de transmission d'informations, et ce qui suppose qu'on pourra toujours réévaluer l'événement qui aurait été collecté dans les archives 2 ans, 10 ans, 15 ans plus tôt. On a ensuite le texte cité in extenso en vieux français, à peine modernisé. Et puis, ma foi, la localisation exacte, localisation géographique. Donc cette base de données, elle comporte des données textuelles, du texte duquel on extrait de l'information météorologique, et des données instrumentales. On est en France, et il faut savoir qu'en France, on dispose des premières séries instrumentales. Quand je dis instrumentales, il s'agit de données barométriques, thermométriques, des états, des descriptions de l'état du ciel, des données pluviométriques, dès la fin du XVIIe siècle. C'est un peu l'exception française à l'échelle de la France. On dispose de données équivalentes pour le reste de l'Europe, guère qu'en Allemagne, au tournant ou à partir des années 1780 avec la Société météorologique de Mannheim. Enfin, tout cela a vocation à être traduit sur un plan quantitatif, mais également sur le plan cartographique, car on s'intéresse au territoire du risque, et sur un plan social. Vous avez quelques exemples, vraiment à titre d'illustration. Ici, une carte réalisée par un étudiant dans le cadre d'un master sur le risque d'inondation à Orléans, et là, on atteint pratiquement l'échelle parcellaire. Alors, à 2 ans, il s'agit désormais d'établir ce qu'appelait un historien médiéviste la pesée globale du chercheur. Le tableau donc, qui figure dans la partie supérieure est sous-estimé. Il date de septembre dernier. Depuis, on a commencé à concentrer les données accumulées par les étudiants, en particulier par Jérémy. Mais grosso modo, on arrive ici à 50 000 données. On atteindrait, avec les données des étudiants, environ 100 000 données aujourd'hui. Prioritairement, ce sont des données quantitatives, la fameuse exception française, puis des données textuelles. Au niveau thématique, la phénologie tient une place de choix, mais ce qui est intéressant et qui est une surprise de taille, on ne s'y attendait absolument pas à l'origine de Rénasec, c'est la part prise par les villes comme productrice d'archives météorologiques. Traditionnellement, dans notre discipline en histoire, on considère, à tort, j'en suis convaincu aujourd'hui, on considère que l'histoire du climat, ça se fait avec des archives rurales, qu'on en a donc réduit à faire de la phénologie. Or, si on reconstruit à partir de données phénologiques historiques, on se condamne finalement à ne couvrir sur une année donnée guère que la période comprise entre avril et août. Or, les villes nous fournissent un autre gisement d'informations, en particulier par l'intermédiaire des délibérations municipales, et ces délibérations s'intéressent aussi bien à la belle saison qu'à la morte saison. On peut donc capturer des quantités d'événements extrêmes qui nous échappent dans le cadre de la documentation, je dirais, traditionnelle, hein, par commodité. Répartition régionale. Bon, sans surprise, l'Île-de-France tient une place de choix entre l'Observatoire de Paris, l'Académie royale des sciences, les délibérations municipales, etc. Mais cela dit, à un niveau assez équilibré, d'autres régions suivent, en particulier donc Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, etc. Vous avez ensuite la répartition régionale des données quantitatives, toujours la dominante Île-de-France, et la Saintonge, tout bêtement parce que on a mis la main il y a un an et demi maintenant sur des journaux météorologiques à La Rochelle qui ont été écrits au XVIIe, XVIIIe siècle par des négociants qui pratiquaient à la fois, qui trafiquaient les esclaves entre l'Afrique et les Antilles, qui trafiquaient les eaux de vie, qui trafiquaient le blé, etc. Bref, leurs journaux intimes, on appelle ça des journaux intimes, sont vraiment des carrefours documentaires. On touche absolument à tout, c'est-à-dire à la signature de l'événement extrême dans la campagne, en mer, et puis sur le plan local, à l'échelle d'un territoire urbain, par exemple. On a notamment, grâce à ces journaux, travaillé depuis quelques mois sur la notion de submersion. Voilà quelques réalités de la normalité climatique très rapidement, parce qu'il faut faire vite. Ce sont des diagrammes à 7 heures qui sont établis à partir de l'écho des sources textuelles et quantitatives. Si vous prenez le cas de l'Île-de-France, il semblerait que les Parisiens ou les gens d'Île-de-France, entre 1500 et 1900, aient été prioritairement sensibles au froid. Hein, ce n'est pas forcément représentatif du temps qu'il fait. C'est la perception du temps entre 1500 et 1900. Hein, soyons prudents. En aucun cas, il s'agit d'une répartition climatique des 500 dernières années. Donc, en Île-de-France, on était très sensible au froid, à la pluie. Plus surprenant, également la sécheresse, 13%. Les sécheresses sont récurrentes à certaines périodes, notamment dans la seconde moitié du XVIIe siècle. À la chaleur, pour 11%, les embâcles, les inondations n'arrivent vraiment que de manière assez éloignée, avec des totaux de l'ordre de 9%. En Languedoc-Roussillon, ce qu'on craint le plus, c'est la pluie. La pluie, et puis la sécheresse. Et enfin, c'est une crainte toujours d'actualité dans ces régions, les Catalans vous le direz, les fameux aiguats, les inondations de type Cefnol qui reviennent très régulièrement dans notre documentation. Alors, je vous parlais de pesée globale, vous en avez eu un petit aperçu, je vais vous présenter quelques types d'extrêmes pour lesquels on est parvenu à reconstruire une chronologie pour l'instant. En premier lieu, les tempêtes. Alors, Cette reconstruction de tempête s'est faite en parallèle avec des travaux menés dans le cadre du programme européen Millennium. Alors, mon graphique de gauche ne repasse pas. Je vous renvoie alors directement dans le listogramme de la partie inférieure, à droite de la diapositive. Là aussi, une nouvelle surprise de taille quand on répartit ces tempêtes. Alors, par tempête, on a retenu que les vents supérieurs, à force 10, on a éliminé tous les petits phénomènes. Alors, vous allez me dire comment vous faites pour déterminer une tempête de force 10 ou plus en 1520 ou 1530. Eh bien, tout bêtement, à partir de notre corpus documentaire. La base de données est un croisement de sources. C'est-à-dire qu'on ne valide un événement extrême que lorsqu'on a plusieurs sons ou échos concordants. Or, ces échos concordants, même si on n'a pas de données instrumentales, décrivent les dégâts causés par une tempête. Ce qui permet, par rapport à l'échelle de Beaufort terrestre, cette méthode, on l'a établie de concert avec les gens de l'ONF, qui m'ont dit, finalement, essayer d'utiliser ce type d'échelle de Beaufort sera le plus simple. Tu pourras évaluer, certes, de manière approximative, mais on aura une première quantification. On constate donc la palme de l'effectif total revient au XVIIIe siècle, incontestablement. Ensuite, une période de relative accalmie, une reprise dans la seconde moitié du 19e, une rémission quasi totale entre 1900 et 1950. Cette chronologie vaut surtout pour la France du Nord. Et puis, c'est envolé, 1950-2000, pour être plus précis, tout démarre au tournant des années 68-70. Et on enchaîne effectivement dans un chapelet de très très grandes tempêtes qui vont être signalées dans nos archives, tant dans les systèmes forestiers que dans les milieux urbains. Mais interrogez n'importe quel forestier qui a un petit peu d'ancienneté dans la profession, il vous établira cette chronologie contemporaine beaucoup plus facilement que moi encore. Deuxième thématique, qui est un projet de dernière minute, je dirais. On a été sollicité pour travailler dans le cadre de la commission parlementaire sur Xynthia, et on s'est intéressé en constituant un groupe local d'érudits locaux, d'acteurs locaux, etc. On a tenté de reconstruire une chronologie des submersions. Rappelez-vous, à l'époque, beaucoup de nos décideurs ont dit que c'est un événement totalement inédit, par conséquent imprévisible. Ce travail a été fait avec une équipe d'une quinzaine d'individus. On a vraiment ratissé tous les fonds du littoral atlantique, du Sud-Bretagne jusqu'à l'estuaire de la Gironde, et on arrive à un effectif total pour cette portion du littoral, de mémoire, 30 à 37 événements. Vous avez ici donc la répartition chronologique par séquence de 50 ans, et une fois de plus, se découpe très facilement, enfin très aisément, le 18e siècle, et enfin la période 1850-1950, et effectivement pour la période postérieure, un déclin très important de ce risque submersion sur les littoraux atlantiques. On parle là d'événements recensés dans les archives. Comparaison supplémentaire, cette fois-ci à partir de la chronologie qui a été établie par Horace Lamb dans les années 80 dans son ouvrage. Il a répertorié tous les types de tempêtes et de submersions dans l'Atlantique Nord. Voilà ce que ça nous donne un petit peu. Finalement, une chronologie assez proche à l'œil, mais on verra ça mieux avec des histogrammes, avec des jalons dramatiques pour les populations du nord de l'Europe. L'événement de 1634, 1717, etc. Je vous laisse le soin de décortiquer. Et cet événement, dont la mémoire est très, très, très bien entretenue par les lenders allemands et l'État fédéral, c'est le désastre de Hambourg. Vous avez peut-être vu récemment le ciné-documentaire qui est passé, je ne sais plus sur quelle chaîne. La submersion de Hambourg en 1962 avait fait plus de 300 morts. On a par exemple dans le Schleswig-Holstein une ville de Tönning qui a soigneusement entretenu ses repères de submersion, et cela depuis le XVIe siècle. Donc vous me voyez venir, j'imagine, c'est-à-dire que j'oriente progressivement cette recherche RENASEC vers la notion de culture du risque et d'entretien d'une mémoire dans l'optique d'une prévention. Alors, répartition et comparaison, Charente-Maritime en bleu, mais le bleu ne réapparaît pas ou pas très bien, et en rouge, la mer du Nord, donc un territoire compris entre l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne du Nord, le Danemark. On a des chronologies par rapport aux effectifs assez similaires, à une exception près, le 21e siècle, bien entendu, Xynthia donc se détachant très nettement. Les inondations, je vais passer très rapidement. Pour votre information, donc voilà tous les bassins hydrographiques qui ont été retenus dans le cadre de RENASEC. 5 minutes ?
Oui.
Il me reste ? Oui. Très bien. Alors, là, on s'est heurté à un problème de taille auquel se heurtent tous les historiens européens. celui de, du calcul ou de l'estimation approximative de la sévérité des inondations. Puisqu'on ne dispose pas de données instrumentales réelles, alors pour les inondations, pas avant le 19e siècle. Alors il y a des systèmes, un collègue espagnol, Mariano Barrientos, estime la sévérité en fonction du type de procession. Le problème, c'est que ces processions, si elles sont très bien documentées en Espagne, elles le sont moins chez nous. Non pas qu'on ne processionnait pas, on processionnait beaucoup, mais on était beaucoup plus vague dans la description. Or, le collègue, là, espagnol, arrive très précisément, en fonction du type de cérémonie, etc., à évaluer la gravité de cet accident hydrologique. Nous, on s'est donc référé au contenu de nos textes en établissant une échelle un petit peu plus simple, de 6 graduations. Le moins 1 correspond à un événement qui est référencé, qu'on ne veut pas perdre dans la base de données, mais pour lequel nous n'avons aucune information. Donc il apparaît dans la reconstruction, mais n'apparaît pas dans la rubrique sévérité de l'événement extrême. Et puis après, vraiment c'est une échelle qui est construite en fonction du contenu textuel. Niveau 1, mention dans les sources, peu de dommages, c'est très localisé. On souhaitait absolument distinguer les phénomènes majeurs des épiphénomènes. Si vous tombez sur quel type de source, on va vous décrire l'apocalypse. Et vous allez découvrir que cet apocalypse a bien eu lieu, mais qu'il a concerné un territoire de quelques kilomètres carrés. Donc il fallait qu'on puisse distinguer les événements européens, des événements nationaux, régionaux, ou même très très locaux. C'est ce que permet, dans une certaine mesure, cette échelle. Ce n'est pas une panacée, hein. On s'adapte à la documentation à laquelle on est confronté. Un exemple parmi d'autres de reconstruction, celui de la Seine, 1500-1900. Là aussi, des périodes de très fortes fluctuations, des dômes plus importants entre le deuxième tiers du XVIIIe siècle et les premières années du XIXe siècle, une relative décrue dans la seconde moitié du XIXe siècle, etc. Enfin, je vous les juge, je crois que ce n'est pas l'objectif principal de cet exposé. Donc, les submersions, tempêtes, les inondations. On s'intéresse également aux sécheresses et aux vagues de chaleur. Pour votre gouverne, comment utilise-t-on nos données historiques pour reconstruire les sécheresses? Ça donne lieu très régulièrement à des échanges et beaucoup de questions, cette histoire de reconstruction des sécheresses. Vous avez un exemple ici, c'est la grande sécheresse d'Île-de-France de 1577-1518. Nous ne disposons bien entendu pour cette époque d'aucune donnée quantitative. On va donc traquer l'événement. Il va être repéré dans un type de source. Au cours de l'hiver 1577, donc on épluche toute la documentation de France, elle ne manque pas, entre les journaux intimes, les délibérations municipales, les archives départementales, les forestiers, etc. Et on suit l'événement. En mai-juin 1577, on parle de grande chaleur. En juillet 1577, les premières processions sont des processions propluvia pour demander la pluie, sont des processions à Sainte-Geneviève. Elles sont toutes référencées dans les délibérations municipales. Donc on peut, rien qu'à partir des libérations, déjà avoir une idée de la durée du mouvement. Avril 1578, etc. Un an plus tard, en juillet-août, on parle encore de chaleur et de sécheresse. Et les mentions disparaissent totalement dans notre documentation à la Toussaint 1578. C'est pourquoi, dans le cas des reconstructions, dans certains cas, on n'a pas souhaité couper annuellement l'événement pour bien montrer sa durée. Donc vous pouvez arriver, dans certains cas, à des sécheresses de 450 jours. Ça correspond donc à une partie de l'année et ce qui suit sur l'année suivante. Deuxième type de reconstruction, alors là c'est véritablement l'idéal, on a les mots et les chiffres. Les mots sont des locaux, des curés dans les registres paroissiaux, des journaux intimes, et les chiffres, ici il s'agit du canal du Midi et de la Garonne, c'est le corps des ingénieurs du canal du Midi, qui à partir donc de la création de ce canal, c'est-à-dire dans les années 1670-80, fait des relevés quotidiens de type instrumental. Donc vous avez les particuliers qui signalent ici, les sources de la montagne, Pyrénées, Corbières, sont très faibles, donc c'est un paysan, un berger pour être précis. Ici on arrive en avril, elle commence à se faire sentir, la sécheresse, juin, à Toulouse, on organise la première procession. Je vous invite à visiter Notre-Dame de la Dorade. Vous avez de superbes ex-voto, ces petits tableaux qui relatent les processions. À titre indicatif, quand même, les processions météorologiques dans nos corpus, par exemple pour Sainte-Geneviève à Paris, c'est la principale motivation de cérémonies religieuses à hauteur de 25% du total. Donc ce n'est pas des phénomènes marginaux. C'est vraiment important. La procession, ça permet de lutter contre le mauvais temps. En tout cas contre les extrêmes, etc. Continuation de la sécheresse en novembre. Voilà un autre type de reconstruction, cette fois-ci sous forme de nombre de jours, entre 1500 et 2000, ici, reconstruction cette fois-ci sous forme de moyenne mobile. Comparaison par siècle, le 18e siècle, comme pour les tempêtes, domine, se détache très nettement. Le 20e siècle n'apparaît pas comme le siècle des sécheresses par excellence. Elles sont des effectifs. Notre durée de sécheresse, elle est relative. Hein. Ce n'est pas une sécheresse au sens contemporain du terme, strict. C'est la durée au cours de laquelle il y a eu un problème avec l'eau. Grosso modo, il y a un problème avec les cultures. Voilà donc des effectifs, nombre, retour, ce que l'on peut reconstruire, des comparaisons cette fois-ci avec les résultats des collègues européens. Et puis on s'intéresse aussi dans le cadre de RENASEC à des comparaisons avec les travaux qui sont réalisés par Valérie Daud à partir des datations isotopiques. Elle a travaillé avec son équipe sur les charpentes et bois de charpente du château de Fontainebleau. Et on a pu observer entre ces reconstructions, donc ces reconstructions, c'est la courbe rouge, et nos reconstructions historiques, les colonnes, quelque chose d'assez ressemblant. On est actuellement en train de travailler sur la méthode statistique la plus ad hoc pour arriver à établir des corrélations, quelque chose d'approchant. Quelques enseignements sur ces sécheresses. On a beaucoup d'embâcles au XVIIe siècle. Or, on a pu constater dans nos archives que beaucoup d'embâcles étaient en fait précédés par des sécheresses. À titre indicatif, dans certains cas, jusqu'à 39-40% à Paris. Deuxième observation, que vous voyez sur l'histogramme en haut à gauche, on a un glissement, c'est-à-dire que l'origine de nos sécheresses, traditionnellement, en tout cas jusqu'au 19e siècle, se situe plutôt au printemps. Et à partir du 19e siècle, elles prennent naissance, en tout cas elles sont signalées dans les archives, comme point d'origine plutôt au début de l'été. Voilà donc pour les reconstructions, l'aspect très instrumental et quantitatif, mais sous ces statistiques, on a aussi ce que j'appelle moi de la chair humaine. Ces trois vignettes vous permettent de vous montrer que la perception est un facteur de permanence entre cette procession à Sainte-Geneviève dans Notre-Dame en 1694, à l'occasion d'une sécheresse absolument terrible, 2008, la grande sécheresse méditerranéenne, les Catalans français qui processionnent en l'honneur de Saint-Galdric en catalan. Il est réputé pour faire venir l'eau, trouver des sources, etc. Et l'été dernier, les Russes orthodoxes qui processionnaient également contre les feux de forêt et les sécheresses. C'est important, très important, je pense que dans les formes d'adaptation, il faudra aussi prendre en compte ce paramètre religieux, culturel, d'autant plus si les États centraux se désengagent pour des raisons financières. Ce sera aussi une problématique à gérer, hein, probablement. Voilà quelques perceptions, réactions. Je passe, je vais terminer. C'est qu'on me surveille, donc je vais être à la hauteur. RENASEC, là aussi, nous a réservé quelques surprises. Vous l'avez vu, les submersions. Seconde surprise, on appréhende depuis quelques mois maintenant, mais c'est à force d'accumuler toute cette documentation, de reconstruire ces historiques d'événements extrêmes, on aborde une question qui est vraiment passionnante pour nous en sciences humaines, c'est la notion de crise climatique, de rupture, si vous préférez, au sens étymologique du terme. Qu'observe-t-on à partir de toute la documentation à laquelle j'ai fait référence depuis quelques minutes? Tout d'abord, celui qui fait l'événement climatique, généralement de crise, ce sont les groupes dominants. Ce sont les groupes dominants, chez nous, les élus municipaux, les échevins, les bourgeois, les élites, les représentants du roi et le clergé. Ce sont eux qui procèdent à ce qu'on appelle la dénonciation d'un fait. Cette dénonciation crée la réalité, le problème météorologique, qu'on pourra appeler, c'est un anachronisme probablement, mais il faut utiliser aussi des termes contemporains pour se faire comprendre, la crise climatique qui devient un fait social. De manière assez systématique et de manière très surprenante aussi, les élus n'en restent pas là, ils dénoncent et tentent de trouver des solutions. Ces solutions, ils tentent de les trouver en convoquant des experts. Ça, on le voit apparaître au moins des années 1520-1530. Alors, qui sont ces experts à l'époque? En fonction de la période étudiée, ça peut être des élus, des techniciens, on a beaucoup de techniciens. Il faut savoir qu'à Paris, avec la multiplication des embâcles, les élus vont se doter d'un corps de débâcleurs, des fonctionnaires municipaux spécialisés. Leur travail, courant novembre, décembre, c'est vérifier l'état des ponts, casser la glace, etc., pour éviter que la glace n'aille boucher les ponts et provoque des inondations catastrophiques au moment des débâcles. Et puis, au XVIIe, XVIIIe siècle, quand la monarchie se donne les moyens scientifiques de sa politique de centralisme, c'est la création du corps des ingénieurs, de l'Observatoire de Paris, et ainsi de suite, elle fait appel à l'avis des scientifiques. C'est flagrant dans le cas de la crise du Laki volcanique. La présence de nuages pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines parties du pays. Eh bien, on a convoqué les gens de l'Académie des sciences, on les a interrogés. Ils étaient un peu pris au dépourvu, mais ils comprenaient bien qu'il y avait un risque. Visiblement, les gens savaient qu'on mourrait. C'est comme les Russes, hein, les Moscovites, qui pas de statistiques officielles. Le gouvernement central ne divulgue aucune information, mais les gens disent « Oh, on voit de plus en plus de cercueils, on voit de plus en plus de corbillards, et ainsi de suite. » C'est ce qui apparaissait jour après jour. On a à peu près le même sentiment dans la population. Donc les scientifiques vont utiliser des techniques très simples. Ils baladent des petits cerfs-volants dans le ciel de Paris. Ils ont accroché dessus des bouts de viande, récupèrent les bouts de viande, les observent et constatent qu'ils sont entièrement corrompus. On en déduit qu'effectivement, il y a un risque sanitaire qui se vérifie dans tous les registres paroissiaux qu'on étudie. En tout cas, dans beaucoup de registres paroissiaux que nous avons étudiés. Ce qui débouche sur un autre anachronisme, mais qui est une réalité documentaire, donc historique, c'est la notion de triptyque du risque. On voit des mesures de prévention, on inspecte les ouvrages d'art avant le début de l'hiver. On avait un corps de plongeurs, hein, Paris, qui plongeait octobre, novembre, les gaillards. Ils allaient vérifier l'état des piles, etc. Des évacuations systématiques quand on considère qu'il y a un risque, des travaux en conséquence. Système d'alerte très efficace. On a peu de morts, hein, finalement, dans ces extrêmes climatiques historiques. On a un système d'échelle, des repères de crues, repères d'étiage. C'était le pont de la Tournelle, tout a été détruit dans le courant du 19e siècle. Aujourd'hui, si vous y rendez, vous ne verrez que celle de 1910, ordonnance municipale et les secours. Voilà. Tout ça aboutit à une réalité objective, mais aussi nous permet de nous poser la question de savoir si ces sociétés étaient plus résilientes ou non. On a fait l'exercice à partir d'une thématique qu'on maîtrise bien aujourd'hui, celle des submersions, qui nous montre finalement que l'événement météorologique extrême, fort coefficient de marée, vent très important, etc., s'observe à plusieurs reprises dans l'histoire, donc un contexte comparable. Les impacts sont sensiblement les mêmes. Les digues donc, sont éventrées ou alors sont submergées, les marais, les récoltes, etc. En revanche, l'habitat est peu touché et la mortalité est très faible. Elle ne concerne dans le pire des cas que les équipages de marins qui sont en mer au moment de l'événement. On s'est donc interrogé, on a repris les sources d'archives. Premièrement, ce bilan, somme toute limité sur le plan humain, s'explique par un système de prévention alerte, entre autres les relais sonores, les clochers d'église, très bien adaptés en cas de fort vent, qui aujourd'hui détruirait toutes les lignes de communication. On a pu le vérifier pour Klaus, pour Lothar Martin. Un bâti installé en deuxième ligne, mais ça ne nous surprendra pas, c'est évident. Et puis, réaction, solidarité des communautés locales qui se mobilisent et qui se portent, vraiment, elles montent au front pour boucher les trous, pour secourir les populations. Donc, des structures de solidarité très, très poussées. Enfin, des traductions cartographiques qui permettent sur le long terme de mesurer la part de risque de ces événements extrêmes sur certains secteurs. À l'échelle rurale ici, il s'agit de travailler sur le bocage. Un point faible dans RENASEC aujourd'hui, il y en a un de taille, qui est l'aspect économique. Non pas que la documentation manque, simplement on a des difficultés à travailler ensemble entre phénologues, climatologues, historiens d'un côté et économistes, tout simplement parce que nos économistes gèrent des programmes très très ambitieux et RENASEC n'est pas forcément prioritaire. Mais les graphiques qui sont là vous montrent qu'on a de l'information, beaucoup d'informations. Ici par exemple, c'est l'information sur le coût d'une submersion 1924 sur le littoral atlantique. On a une échelle donc communale, on a les montants et on aurait pu détailler à partir de ces registres de la série S sur les systèmes de défense côtiers. On sait quels types d'ouvrages ont été touchés ou non. Voilà pour les délouvrables, donc un certain nombre d'articles, pareil dans la presse. Quant aux horizons, et j'en aurais fini, c'est promis. Donc les horizons sont institutionnels, je pense que RENASEC a contribué à une forme de reconnaissance par l'Institut universitaire de France. On a des thèses en cours, des masters, des projets de recherche qui découlent directement de RENASEC, la NRCHEDAR dont je vous ai parlé. On participe, à titre personnel, je participe à un groupe de travail méningite dans le cadre d'AMA 2. Récemment le projet ANR consacré au Groenland, et Valérie et moi avons déposé dans le cadre d'un consortium européen une proposition au 7e PCRD sur le risque sécheresse. On gérerait donc tout le volet historique au sein de ce groupe européen. Enfin, un certain nombre de manifestations scientifiques et collaborations qui montrent un petit peu tout l'intérêt qu'a suscité RENASEC auprès notamment des élus, hein, puisque Lyon a décidé de monter une très grande exposition pour 2012. Donc si on établit un tableau de bord, les dépouillements sont très très bien avancés, la base de données également, elle est quasiment achevée, reconstruction des extrêmes très avancée aussi, etc. Et le bas blesse incontestablement au niveau de l'entrée économique. Voilà. Donc en guise de conclusion, tout simplement, Eh bien, c'est un projet pionnier, il l'est pour nous en tout cas, c'est un front pionnier historique. Deuxièmement, donc, on a vu cette question des dépouillements, les horizons historiques et climatiques, c'est bien sûr la fréquence, la recrudescence et la sévérité de ces événements. Paraît-il si inédit, je vous ai proposé un clin d'œil, hein, article de presse 1937, je lis le titre, un véritable raz-de-marée submerge, donc déferle sur les côtes de l'Atlantique en 1937 et effectivement tout le littoral. Du sud Bretagne jusqu'à la région de Bordeaux avait été touché à l'époque. Les horizons donc, ont été listés, c'est bien entendu la volonté de cartographier ce risque lié aux événements extrêmes. À moyen terme, c'est sans doute un des projets les plus ambitieux, c'est un outil d'aide à la décision et de communication pour les élus, notamment en restaurant, sauvegardant, si possible en transmettant cette fameuse mémoire, culture, perception du risque au choix. C'est devenu une tarte à la crème en sciences humaines, on l'utilise à chaque intervention, je ne sais pas comment la nommer autrement, mais c'est une réalité. On voit très bien que la mémoire disparaît au tournant des années 1920-1950. Elle est liée aux conflits mondiaux, la saignée démographique dans les campagnes littoraux, dans les populations rurales, liée aussi au mouvement d'exode rural et son contraire, l'arrivée massive dans certaines régions des rurbains, comme l'on dit aujourd'hui, les gens arrivés des villes qui n'ont absolument aucune connaissance des réalités locales. Ça a été le cas sur l'île de Ré, l'île de Léron. On avait procédé une petite étude à connotation ethnologique qui s'est vérifiée amplement. Voilà, et des formes collectives de prévention à alerte. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition. Je suis désolé.